Vous écoutez
RMC.
Soyez les bienvenus, samedi 27 avril, merci d'avoir choisi RMC, 9h.
RMC, la matinale week-end.
Le journal de Solène Gardré. Bonjour Solène.
Bonjour Mathieu, bonjour Peggy, bonjour à tous. La flamme olympique va bientôt quitter la Grèce. Prochaine étape, Marseille. Nous serons à Athènes au début de ce journal. Sciences Po Paris a été finalement évacué dans le calme hier soir. Des étudiants occupaient l'université. Ils demandaient à leur direction de prendre position sur la situation à Gaza. Puis en rugby, les Bleus affrontent les Anglaises ce soir à Bordeaux pour leur dernier match du tournoi des Six Nations. Elles ne les ont pas battues depuis 2018.
Et on prend donc tout de suite la direction d'Athènes, en Grèce, là où la flamme olympique s'apprête à partir pour la France.
Oui, départ prévu dans une heure à bord du Bélème, le dernier grand voilier français. Et pendant les 12 jours de traversée jusqu'à Marseille, la flamme sera au centre de toutes les attentions à bord. Julien Richard, vous êtes au port du Pirée d'Athènes pour RMC.
Oui, c'est un passager VIP, nous disait il y a quelques minutes le capitaine du Bélème, un peu comme un chef d'État. La flamme va voyager dans une petite lanterne sécurisée d'à peine 30 cm de haut, couleur cuivrée, brillante, frappée du logo Paris 2024, avec trois gardiens, policiers, militaires, sécurité civile, qui vont se relayer pour la surveiller en permanence, chargés aussi de s'occuper de sa maintenance. La flamme, elle est alimentée par de la paraffine. 8 heures d'autonomie pour cette lanterne qu'il faut donc recharger. Elle sera placée dans la salle de vie du Bélème, où se déroule notamment les briefings, donc visibles en permanence. Elle pourrait s'offrir aussi quelques petites escapades en extérieur pendant les manœuvres. Une lanterne de secours avec le feu originel allumé à Olympie est également embarquée. Le Bélème et sa précieuse cargaison qui seront accompagnés par un navire de la marine française sur les 12 jours de traversée prévue jusqu'à Marseille.
À Paris, l'université Sciences Po a été évacuée dans le calme hier soir.
Elle était occupée par quelques centaines d'étudiants. Ils demandaient à leur université de se positionner sur les actions d'Israël à Gaza. Finalement, un accord a été trouvé entre les étudiants et la direction. Amine Lafchin y était pour RMC.
On a, vous savez, devant nous, 60.
Devant les locaux de Sciences Po, de jeunes manifestants, pancartes et drapeaux palestiniens en main. Au milieu de la foule, Mano, étudiant de Sciences Po à Saint-Germain-en-Laye.
Je pense qu'ici, c'est particulièrement symbolique. Les universités, c'est vraiment là où il y a le débat étudiant, les réflexions. Moi, je pense que c'est très important d'être justement devant une université plutôt que dans un autre lieu à Paris.
De l'autre côté de la rue, des manifestants pro-israéliens.
Je suis en colère parce qu'ils ont enlevé le drapeau de la France sur la devanture de Sciences Po.
Maxime aussi étudie ici et dénonce un climat délétère dans les salles de classe. Pour lui, le conflit israélo-palestinien n'a pas sa place ici.
Aujourd'hui, le discours qu'on porte, c'est apaisement de la situation. On arrête d'importer un conflit dans les universités et on débat sereinement dans le cadre démocratique.
Victor, lui, est là car il devait participer à une conférence finalement annulée. Et même s'il comprend les revendications des manifestants, pour lui, bloquer l'établissement n'est pas la solution.
Le droit à manifester, c'est fondamental. Mais il y a aussi le droit à l'éducation. Et je vois mal en quoi bloquer une école va forcément aider à la prise de conscience ou à quoi que ce soit d'autre.
L'école a été débloquée dans la soirée après la publication d'un communiqué de l'établissement.
À Gaza, justement, le Hamas a déclaré étudier hier une contre-proposition israélienne sur une possible trêve dans les combats à Gaza, mais aussi sur la libération d'otages. Un traitement efficace contre la bronchiolite, le Beforus, dont la première campagne de traitement s'est déroulée à l'automne dernier, a permis d'éviter 5800 hospitalisations. C'est ce qu'indiquent deux études publiées hier par l'Institut Pasteur et Santé publique France. Alors que chaque année, 480 000 bébés de moins de 2 ans ont la bronchiolite. Pierre Bourgès, cet hiver, il y a donc eu une baisse importante du nombre de nourrissons hospitalisés.
Oui, avec ce traitement par injection, le risque de forme grave de la bronchiolite est réduit de près de 80% chez les nourrissons, selon l'étude. Les symptômes les plus graves sont rares, mais peuvent être sévères, notamment chez les bébés de moins de 2 mois, entraînant des infections pulmonaires et des difficultés respiratoires. C'est donc une bonne nouvelle pour Jérémy Docao, président du SNPEH, qui représente les pédiatres du milieu hospitalier.
Ça va être utile pour les enfants. Pour eux, ça va être potentiellement éviter une hospitalisation pour une bronchiolite. Ça va aussi ralentir la pression que ça peut avoir sur les urgences pédiatriques l'hiver. S'il y a moins d'hospitalisation, on a aussi moins de temps perdu à chercher une place d'hospitalisation.
Parce que l'étude de l'Institut Pasteur indique également que 5800 cas d'hospitalisation ont pu être évités grâce au traitement, alors que 35 000 nourrissons de moins d'1 an sont hospitalisés chaque hiver. Le traitement permettrait donc de désengorger les hôpitaux déjà saturés à cette période de l'année. En 2024, le ministère de la Santé se prépare à sécuriser assez de doses pour immuniser 600 000 bébés, 2 fois plus que l'année dernière.
9h05 sur RMC, du rugby avec les Bleus qui affrontent à 17h45 les Anglaises pour leur dernier match du tournoi Destination.
Les deux équipes ont gagné tous leurs matchs jusqu'ici. Celle qui s'imposera au stade Chaban-Delmas remportera donc le Grand Chelem et les Françaises devront faire fort pour battre leur rivale anglaise, Winnie Claré, car elles ne les ont pas battues depuis 2018.
38 essais marqués en 4 matchs. L'Angleterre survole le tournoi Destination cette année grâce à une ligne arrière flamboyante et aussi grâce à des avants massives. Et ça, l'ouvreuse tricolore Lina Kerwa le sait bien.
Forcément que les conditions elles vont être plus fortes. On sait très bien qu'au milieu du terrain, c'est une équipe hyper costaud, mais nous, on a aussi nos forces.
Au rouleau compresseur anglais, les Bleus veulent opposer leur French flair, confirme la troisième ligne, Emeline Gros.
On a un jeu qui est assez épuré, qui est allé chercher les couloirs, qui est assez rapide. Et je pense que là aussi, le maître mot, c'est d'aller les étouffer et d'aller jouer très rapidement sur certaines phases.
Les Françaises l'assurent, elles sont prêtes physiquement et mentalement avant le crunch. Elles qui n'ont plus battu les Anglaises depuis 2018. L'attente est énorme, nous disent la demi de mêlée Pauline Bourdon-Sensus et la troisième ligne Gaëlle Hermé.
Ça enverrait un gros signal pour la Coupe du Monde qui est dans un an.
Ce serait une récompense, comme elle le disait Pauline, de tout le travail fourni. On a envie aujourd'hui de sortir avec quelque chose au bout, quoi. Aujourd'hui, on a envie de connaître un autre sentiment.
Les Bleus sont déjà assurés de battre un record, le record d'affluence dans un stade français pour du rugby féminin.
Et oui, car 27 000 personnes au moins sont attendues cet après-midi. Bonne nouvelle du côté de la royauté britannique. On l'a appris hier, pour la première fois depuis l'annonce de son cancer en février, le roi Charles III va reprendre ses activités publiques dès la semaine prochaine. Expliquez-nous, Anna Jojard.
Et oui, depuis l'annonce de son cancer le 5 février dernier, le souverain avait annulé tous ses engagements publics officiels pour se reposer et guérir. Eh bien, plus de 2 mois plus tard, cela a porté ses fruits. Les premiers résultats sont encourageants. Les médecins du roi se disent même optimistes, mais pas question pour autant d'arrêter les traitements. Ce sera donc un retour à la vie publique en douceur. Ces apparitions seront décidées au cas par cas, selon les recommandations des médecins. Mais 2 dates sont déjà à l'agenda du roi. Mardi, aux côtés de la reine, pour une visite du centre de traitement du cancer et l'accueil de l'empereur et l'impératrice du Japon en juin. Bon, en revanche, rien n'a filtré concernant l'état de santé de Kate Middleton, la belle-fille du roi, elle aussi atteinte d'un cancer.
Anna Jojard pour RMC. Enfin, on vous le rappelle depuis ce matin, mais aujourd'hui, c'est la fête des libraires indépendants. 650 librairies dans toute la France fêtent cette 26e édition. Et il n'est jamais trop tard pour s'y mettre, à l'image de notre auditeur Jean-Pierre qui nous a appelé ce matin.
Jusqu'à mes 40 ans, je n'avais pas ouvert un livre. J'avais lu 0 livre. Et à la naissance de ma fille, à 40 ans, bah, quand elle a commencé à 2 ans, donc lui lire des petites histoires. Donc voilà, on commence par là. Et maintenant qu'elle sait lire, on s'est mis à lire Harry Potter le 1, le 2. Là, on a entamé le 3 il y a quelques temps. On lit ensemble le soir, donc un chapitre chacun. Et bah, moi, ça m'oblige à lire. Et puis elle adore ça parce qu'elle lit avec son père et elle lit avec ses parents. Et je pense que l'exemple vient des parents.
Excellent témoignage. En tout cas, on termine avec les courses sur RMC.
Le Quintet Plus se déroule sur l'hippodrome d'Auteuil à 15h15. Voici le pronostic de Frédéric Kita de la Dream Team des courses RMC. Son favori est le numéro 1, Irish Vocation. Son outsider est le numéro 5, Olala Forez. La course du Quintet est à suivre en direct sur RMC Découverte.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Merci Solène Gardré. Et bonjour Jean-Christophe Drouet.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les grandes gueules du sport à partir de 9h30, quel est le programme ?
Une très belle émission ce matin. Pour ouvrir ce week-end, en notre compagnie de 9h30 à midi déjà, le match ce soir entre le Paris Saint-Germain et le Havre, le PSG peut être champion pour la 12e fois de son histoire. Est-ce toujours un événement Paris champion ? Ce sera notre première question. Et puis à partir de 10h, restez bien avec nous, c'est un événement sur RMC, vous le savez. C'est le grand départ de La Flamme. Nous serons en direct d'Athènes, La Flamme qui va rejoindre Marseille ce sera le 8 mai prochain. On va tout vous raconter dans cette émission. Nous serons avec Renaud Longuèvre, Pascal Duprat, Marc Madiot et Simon Dutin.
À tout à l'heure, Jean-Christophe. En attendant, un autre type de flamme, soit à peu près la même forme. Perico, les gars, on va parler de l'asperge.
Eh bien, on va aller, on est en pleine saison, on va y cueillir les asperges et expliquer comment les déguster.
Eh bien, tout de suite, dans 2 minutes, le beurre et l'argent du beurre.
RMC, la matinale week-end.
Le beurre et l'argent du beurre.
Avec Perico Légas, bien sûr. Bonjour Perico.
Bonjour Mathieu, bonjour Anaïs.
Et bonjour Tania. Nous parlions du fruit de saison adoré des Français dimanche dernier, la fraise. Parlons en ce samedi matin du roi des légumes de saison aussi, ça vient de démarrer. L'asperge, Perico.
Roi des légumes, légumes des rois. Moi qui suis gastronome, je reconnais que, alors dans sa diversité, hein, la blanche, la verte et puis la violette, dont on parlera un petit peu, Je reconnais que c'est un légume, j'allais dire prodigieux, par sa texture, par sa saveur, sa culture, son ancienneté, ses vertus médicinales. On l'a oublié l'autre jour quand on a fait le spécial, les alicaments, il fallait parler de l'asperge qui est le plus ancien. Hippocrate, c'est peut-être le légume dont on donne des vertus médicinales les plus anciennes dans l'histoire de l'alimentation sanitaire.
Faut y venir quand même à l'asperge. Ça fait partie de ces légumes. Bon, on n'est pas forcément tous ravis au premier abord de goûter ça.
Il faut savoir aimer. Alors, mon cher Mathieu, si vous avez été déçu, c'est qu'elle était mal cuisinée. Ah, je suis désolé. Je vous vois venir.
Mais, bah oui.
Mais je vous en ferai, voyez, et vous découvrirez la vertu et la magie de cette. Et c'est vrai que le succès qu'elle a dans la restauration, dans la haute restauration avec des tarifs, mais j'allais dire terrifiants. La botte d'asperges avec un nœud en soie qui voilà, et qu'on vous présente ça presque comme une bijouterie à 110, 120, 130 euros les 24.
Ah bon ?
Oui, mais c'est vous dire, on rentre dans le vif du sujet. C'est cultivé à la main, cueilli tous les jours avec une précaution infinie. Quand c'est cueilli, il faut juste la tordre pour ne pas casser la tige puisqu'elle va repousser.
Oui.
Et vous pouvez faire comme certains
raisins. Non, mais finalement, quand on voit sur les étals de marché 20 euros la botte, faut pas se plaindre alors.
Alors voilà, c'est pour ça, ça peut être moins cher. La verte est beaucoup moins chère puisqu'elle nécessite moins de culture. La blanche, elle est blanche pourquoi ? Vous savez que l'endive est blanche parce que ce sont des variétés végétales qui sont cultivées dans le noir, couverte.
Sous terre.
Et la blanche, c'est pour ça qu'elle est blanche. Elle doit être couverte, soit par une bâche. En tout cas, elle doit être butée plusieurs fois. Elle est donc, elle ne prend pas la lumière. Elle ne fait pas la respiration chlorophyllienne. Donc, elle est blanche. Et dès qu'elle pointe la tête, elle verdit un petit peu. Et c'est pour ça que les asperges vertes sont vertes. Et surtout, l'asperge sauvage. Je raconte anecdote. J'ai un ami vigneron dans les Corbières. On va se promener vers 5-6 heures de l'après-midi. Il les cueille directement. On peut pas s'imaginer que c'est des asperges. C'est tout petit. Et le soir, il fait une omelette avec les asperges sauvages. Cueilli dans l'après-midi avec quelques herbes qu'on a ramassées dans le maquis, et c'est un grand instant de gastronomie.
On donnera les recettes, mais vous disiez légumes des rois. Elle est très appréciée, l'asperge, depuis les Grecs et les Romains, mais c'est Louis XIV qui va la populariser.
Alors, pourquoi Louis XIV ? Parce que figurez-vous qu'elle est de la famille des Liliacées. Quelle est l'autre fleur très connue de la famille des Liliacées ? C'est la fleur de lys. Mmh. Et lorsque Louis XIV, Lincatini, qui est son jardinier botaniste, lui dit « Sire, l'asperge est de la famille du lys », et il dit, voilà, et il y goûte, il trouve ça sublime, parce qu'évidemment, c'est merveilleusement cuisiné. Surtout que les cuisines sont loin de la salle à manger à Versailles. Il a mangé froid toute sa vie. Sauf que du coup, les asperges arrivaient tièdes, elles étaient à parfaite température, et il en fait des ventrées totales, voilà. Et donc, la Quintini consacre une partie du parc de Versailles avec des plants d'asperges, et il y a toute une équipe de jardiniers qui est là, parce qu'il faut une présence permanente, pour pouvoir cultiver de l'asperge. Elle a besoin d'une géologie très particulière, d'une saison. Faut que ce soit un peu sablonneux, pas trop humide, mais pas trop, quand même du soleil, mais pas trop. C'est pour ça qu'elle aime bien
près des fleuves,
le Val de Loire est le terroir emblématique de l'asperge de Vineuil, de l'asperge française, avec les Landes, parce qu'on a un terroir sablonneux, et les grands crus sont près d'Avignon, dans la vallée du Rhône, parce que vous avez à la fois le phénomène alluvionnaire, une bonne climatologie, même s'il fait un petit peu chaud, et suffisamment d'humidité pour qu'on puisse avoir la fine fleur de l'asperge française.
Pour en revenir à Louis XIV, moi je croyais qu'il aimait ça parce qu'on lui prête des vertus aphrodisiaques.
Alors voilà, alors bien sûr, vous avez vu la forme de l'asperge qui est un petit peu phallique, ça c'est un petit peu la croyance.
Ça nous aurait échappé.
Et Louis XIV, qui est un Bourbon, qui a une libido absolument démentielle, est persuadé que l'asperge lui donne des vertus, voilà, pour honorer ses maîtresses, ses dames de compagnie, en fait, toute cette vie sexuelle à Versailles qui était assez intense. Faut dire qu'il faisait tellement froid. Vous savez que la température moyenne à Versailles, c'est moins 5 degrés sur l'année. Ouf, et oui. L'hiver, quand on sert le vin dans le verre du roi, il gèle. Le temps de verser dans l'air. C'est pour dire qu'ils étaient quand même une constitution. Donc l'asperge, l'ai un petit peu stimulé, et surtout la façon de la préparer. C'est une. Alors, pourquoi je veux dire, non. C'est une telle précision. Le légume étant tellement fragile et subtil qu'il faut un doigté et une exigence dans la préparation qui demande beaucoup de savoir-faire.
Alors, justement.
RMC, le beurre et l'argent du beurre.
Soyons tous Louis XIV ce matin, maintenant qu'on a compris pourquoi on aime manger des asperges. Dites-moi comment les cuisiner pour que ce ne soit pas raté. D'abord, avec Anaïs Castagna, moi j'ai ma première question. Je sais que les blanches, il faut les éplucher, les vertes pas vraiment. Expliquez-nous, Anaïs.
Oui, contrairement à l'asperge verte, l'asperge blanche doit être épluchée avant d'être cuite pour ne pas être trop fibreuse. Alors attention, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a un sens, a priori, Perico, à respecter.
J'espère bien.
Il faut éplucher l'asperge en faisant glisser le couteau du haut vers le bas. Objectif, faire descendre la sève et l'amertume dans le pied. Ça permet d'éviter les amertumes désagréables au moment de la cuisson, c'est ça ?
Absolument, parce que Comme elle est cultivée dans le sol, elle se crée une petite carapace. C'est pas seulement qu'elle est fibreuse, c'est qu'il y a une petite carapace autour, donc il faut la retirer. Certaines asperges, et je l'ai vérifié l'autre jour, il fallait deux passages, parce que la deuxième couche était encore un petit peu dure, les enfants se sont plaints.
Alors, donc, il faut, avant même de les cuisiner, au moment de l'épluchage, il faut qu'elles se ramollissent. Épluchage, l'asperge n'est plus dure.
Quand elle est cueillie, elle est très ferme. En même temps, faut pas attendre trop longtemps. L'asperge du jour est toujours la meilleure cueillie le matin pour être dit. Pour être dégustée le soir. Et il faut évidemment qu'elle s'attendrisse un petit peu. D'où la cuisson. Mais la cuisson, c'est à la seconde près. Si vous ratez votre cuisson, là, vous passez à côté du bonheur. Alors, l'asperge verte, formidable, elle peut se cuisiner de toutes les façons. D'abord, il ne faut pas la peler. Donc, elle peut être cuite comme les asperges, c'est-à-dire pochée ou à la vapeur.
Alors, différents types de cuisson. Alors,
le secret que je donne, c'est que je mets dans mon récipient, dans une espèce de caquelon, et au lieu de tremper la totalité de l'asperge, je ne trempe que jusqu'à la tête, c'est-à-dire cette partie un petit peu molle du turion, que je laisse hors de l'eau. Mais je mets un petit couvercle dessus, ce qui fait que la vapeur dégagée par mon eau d'ébullition qui va cuire le corps de l'asperge va juste cuire le turion à point. Sinon, on les met dans un cuiseur automatique à la vapeur. Ça, c'est parfait. Mais attention, le taux de cuisson de la tête doit être inférieur au taux de cuisson du corps. Quant aux asperges vertes, soit on les fait cuire à la vapeur, soit on les fait cuire à l'eau, soit on les met dans une poêle. Comme elles sont beaucoup, on peut d'abord les pocher un petit peu et ensuite les couper en morceaux, ne faire que des têtes, et surtout la crème d'asperge. Alors, crème d'asperge verte, on la broie, bien entendu, on passe au mixeur. Attention, il y a des cils, des fibres qui vont s'entourer autour du coupeur, du petit couteau, et la crème d'asperge blanche. Alors là, on a un petit peu de perte puisqu'on ne garde que les têtes, et on est avec un petit peu de crème fraîche, on est dans le sublime absolu. Et ensuite, la préparation avec la sauce. Tout est dans la sauce, et ce qui permet de déguster l'asperge, c'est d'avoir cette petite sauce. Il y a mille façons de la faire. On peut faire une simple vinaigrette. On peut faire la ravigote ou la gribiche que l'on fait pour la tête
de
veau.
Ou une petite mayo améliorée.
Moi, je fais crème fraîche, un jaune d'œuf, différentes sortes de vinaigres, un vinaigre balsamique blanc et rouge ou tout simplement un vinaigre de cidre. Vous pouvez rajouter dedans une petite herbe, si vous voulez, du basilic ou simplement de la ciboulette ou un petit peu d'oignon. Enfin, on fait ce que l'on veut, poivre, sel, on aromatise comme on veut, pas trop violent, et on trempe évidemment son asperge. Alors, deux façons de la déguster. Contrairement à ce qu'on pense, ce sont les Anglais qui le font à la main, parce que ça permet, j'allais dire, de déguster l'asperge jusqu'au maximum de sa capacité, j'allais dire, de mastication. Ensuite, vous tombez dans la fibre. Moi, j'aime bien mâcher la fille parce que c'est bon pour l'organisme.
Et puis, donc, on les mange comme des bananes, quoi.
Comme des bananes. Petit à petit, on commence par la tête, tout simplement. Et puis, sinon, à la française, telle que le mange Louis XIV, évidemment, avec le couteau et la fourchette. Là, il y a un peu de perte puisqu'il faut que toute la partie soit comestible. Donc, on coupe plus sévèrement, on laisse moins de parties de turion.
Même avec le couteau? Je croyais que c'était juste avec la fourchette.
Alors aujourd'hui,
vérifier qu'elle est bien cuite, il n'y a pas besoin de couteau pour la découper.
Mais aujourd'hui, c'est difficile de se passer du couteau. Mais la bonne éducation voulait que l'asperge était cuite tellement à point qu'on pouvait la couper avec la fourchette. En tout cas, dans la bourgeoisie, l'aristocratie, il y a une fourchette à asperges. Elle a une des branches est un petit peu élimée, et on coupe avec la fourchette. Jamais n'utiliser son couteau. Mais aujourd'hui, quand vous avez des enfants, bon, s'ils veulent manger, bon, enfin, la bonne tradition, c'est d'apprendre
à la main,
d'incliner l'assiette on met la fourchette sous l'assiette sur la fourchette, ça fait une petite pente. La sauce se trouve en bas de l'assiette et on trempe délicatement sa tête d'asperges dans le.
Pour faire aimer aux enfants l'asperge, on peut la faire avec du bacon, du pesto, dans une tarte.
Alors, la verte peut rentrer dans un tas de plats cuisinés, y compris en accompagnement. Alors, les risottos à la tête d'asperge en Italie, c'était une pure merveille. On peut la faire en pour, on peut faire un gratin d'asperge, on peut la couper en deux, des omelettes d'asperge, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors que la blanche, on se limitera à une cuisson pour elle-même, vapeur ou pochée, pour avoir la finesse de la texture, la subtilité de la mâche, et puis cet arôme. Alors, la verte est un petit peu plus, comme elle est chlorophyllée, elle est un petit peu plus aromatique, un peu plus parfumée. La blanche est plus discrète en termes d'arôme, mais d'une finesse de texture absolument sublime.
Et vous nous dites que c'est l'un des rares produits alimentaires dont on peut user et abuser.
Alors, il y a
plein de vertus. Diurétique, notamment.
Alors, pas 10 kilos par jour, mais on peut en abuser. Ça va être la sauce qui va être le problème, et l'accompagnement. Mais en tant que tel, c'est fibreux, il y a plein de variétés, plein de vitamines. Et puis, on a cette... on ne peut pas éviter de parler de cet effet secondaire
oui.
Qui est...
gardons le meilleur alors, pour l'acide, la fin. Tout le monde se pose la question.
Voilà, l'acide asparagique de l'asparagine, hein, le mot latin c'est asparagus. Les Espagnols disent asparago pour l'asperge. Et donc l'acide asparagique fait que lorsque il est en contact avec notre suc gastrique, les molécules soufrées de l'asperge se distinguent dans l'organisme. Elles vont directement dans les reins, directement dans l'urine, et c'est la rapidité. Vous mangez une asperge à déjeuner, vous allez faire pipi pour vers 14h30 ou 15h.
Mais même avant.
Et même avant. Et vous avez ce petit fumet soufré. Voilà. Et on dit, tiens, on a mangé des asperges. Ah oui. Ce n'est pas désagréable, mais bon. on se dit, on voit les mécanismes digestifs dans l'organisme et que ça soit si rapide. Ça prouve que l'asperge était surtout, c'est que, alors une asperge qui n'aurait pas une petite odeur de soufre dans l'urine, il y a suspicion. Il faut qu'elle sente un petit peu le soufre pour prouver qu'elle a été cultivée de façon naturelle et respectueuse de la nature.
Je pense que nous allons nous quitter là-dessus. Voilà. Merci beaucoup. On adore vos anecdotes, vos petites précisions historiques, notamment sur l'asperge ce matin. Demain, nous parlons de quoi ?
Demain, nous allons... Je vais vous prendre un sandwich.
Ah ! L'art du vrai bon sandwich. Eh bien, rendez-vous demain, alors.
Le beurre et l'argent du beurre à retrouver en podcast sur l'appli RMC.
Et à tout de suite dans 2 minutes.
RMC.
La matinale week-end.